Alléluia, we thank you for your word, oh God. Te remercions, Père, pour ta parole. Te remercions parce qu'elle change nos vies. Elle nous ouvre les yeux pour te voir. Elle nous ouvre les yeux pour saisir les choses du royaume de Dieu. Elle nous ouvre les yeux pour comprendre la dimension de ce qui est sur le cœur du Père. Elle nous ouvre les yeux pour percevoir tes projets dans notre génération. Nous te remercions parce qu'elle nous change et nous transforme. Et elle nous rend conforme à ton cœur. Père, nous te disons merci aujourd'hui pour ta parole. Elle est esprit et elle est vie. Et elle vivifie et elle renouvelle. Elle bénit, elle encourage, elle transforme. Père, nous te disons merci. Nous accueillons ta parole ce matin. Nous t'invitons à nous parler. Nous t'invitons à nous secouer. Nous t'invitons à nous corriger. Nous t'invitons à nous encourager. Nous t'invitons à nous bénir, Seigneur. Nous t'invitons, Père, à faire tout ce qui est sur ton cœur avec ta parole dans nos vies aujourd'hui. Nous la recevons avec joie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Allez dire à votre voisin, reçois la parole avec joie ce matin. Parce qu'elle va changer ta vie. Alléluia. Elle va
changer ta vie.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. En faisant un grand sourire à quelqu'un que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui. Tu m'as déjà vu? Glory to God. Glory to God. Jésus aime son Église. Jésus aime son Église. Non seulement Jésus aime, ce n'est pas que Jésus aime l'Église, c'est que Jésus aime son Église. En d'autres termes, c'est son Église. Vous avez remarqué le possessif, son Église. Non pas notre Église, mais son Église. Chaque Église locale est son Église. C'est lui qui l'a amené à l'existence, celle qui l'a amené à l'existence. C'est lui qui l'a amené à l'existence, qui l'a appelé à l'existence, qui l'a désigné pour un objectif précis. Glory to God. C'est lui qui l'a vivifié, c'est lui qui l'a rempli, c'est lui qui l'a nourri. C'est lui qui la porte, c'est lui qui la soutient. Hallelujah. C'est tout ce que ça vous fait de savoir que nous sommes portés, soutenus, appelés à l'existence par Jésus lui-même. Merci pour votre enthousiasme. C'est lui qui est notre roc. Amen. Dès que vous entendez un mot que vous reconnaissez, le roc. Amen. Oh, God is so good. C'est merveilleux d'avoir Jésus pour appui. C'est extraordinaire d'avoir Jésus pour appui et d'être conscient d'avoir Jésus pour appui. N'est-ce pas? Chacun de vous dans votre vie, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez Jésus pour appui. Mais il faut en être conscient. Une église qui est appelée à l'existence par Jésus a Jésus pour appui. Mais il faut qu'elle en soit consciente. Glory to God. Hallelujah. Jésus est notre appui. Jésus est celui qui nous a appelés à l'existence. Nous existons de par sa volonté. Et le fait que l'Église appartienne à Jésus veut dire aussi que Jésus a le droit de regard sur l'Église. Et il exerce son droit de regard. Et il a une image de ce à quoi doit correspondre une Église locale, une communauté de croyants. Et ce que nous faisons, c'est nous puisons dans le cœur du Seigneur pour savoir ce qui, à ses yeux, constitue une bonne Église. Alléluia. Glory to God. Jusque-là, nous n'avons rien vu sur la couleur de la cravate du pasteur, ni même sur le fait que le pasteur devrait porter une cravate. Nous avons vu des choses infiniment plus précieuses, infiniment plus importantes. Nous n'avons rien vu sur le nombre de personnes qui doivent chanter à la louange, ni sur la couleur de leur uniforme, et ce sont les choses sur lesquelles les églises se battent. Mais nous avons vu des choses qui concernent le cœur de Dieu pour l'Église. Oh, God is so good. God is so
good.
C'est tout ce que ça vous fait? God is so
good.
Oh, God is so good. J'aime quand Jésus m'écrit. Au mois d'août, comme certains le savent, et je le rappelle encore, parce que c'est important pour nous de prendre conscience de ces choses, et que les gens qui prient pour l'Église prennent conscience aussi de leur responsabilité d'écouter, non pas leur tête ou leurs idées, mais d'écouter ce que dit l'Esprit. Le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas nous arrêter après la semaine 5 à 6, mais de continuer toute la semaine à prier à 5 heures, prier en langue pour l'Église, prier la volonté parfaite de Dieu, savoir qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur. Nous savons ce que nous t'avons demandé, nous savons ce que nous voulons, mais en fait, qu'est-ce que toi tu vois et qu'est-ce que toi tu veux, n'est-ce pas? Et le Seigneur a commencé à nous parler. Il nous a montré le bon, le mauvais et le laid. Tu vois, c'est et le truand en français, n'est-ce pas? The good, the bad and the ugly. Et vous savez, j'encourage souvent les gens à se positionner devant le Seigneur. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Non, pas dis, Seigneur, mais je veux te parler de Béa, parce que vraiment, cette sœur, quand elle chante, j'aime bien, mais il y a des moments, Seigneur, tu fais quelque chose. Pour... Non, le Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi? Alléluia. Quand j'étais jeune chrétienne, le Seigneur m'a appris à faire une prière qui m'a beaucoup bénie. J'étais consciente d'être aimée de Jésus, d'être précieuse aux yeux du Seigneur. Le Seigneur m'a fait faire une prière, et cette prière, c'est « Change-moi, Seigneur. » Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Et Dieu veut faire ça en nous, en tant qu'individus, et dans les églises. Et le Seigneur nous a conduits, donc il nous a commencé à montrer des choses. Et il nous a montré ce qui était bon, il en était content. Il nous a montré ce qui était moins bon. Et ici, nous avons fait des prières de repentance. Nous sommes reconnus, à commencer par moi-même, n'est-ce pas? Glory to God. Et là, le Seigneur nous a conduits par la suite à faire cette série d'enseignements sur le socle de la vérité pour définir ce que nous croyons en tant qu'Église, où nous sommes, où nous allons, définir notre position, ce que Dieu a mis en nous. Et il nous a conduits par la suite dans les lettres qu'il a écrites aux Églises. Dieu est merveilleux. C'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. Et je n'avais aucune idée qu'on allait atterrir ici, mais nous voici. Alléluia. Et nous commençons donc à voir Jésus ausculter son Église. Tout doit être sur un fondement solide, n'est-ce pas? Si vous voulez que la maison tienne, le fondement doit être solide. Et Jésus parle à l'Église d'Éphèse. Il se révèle à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui était exilé sur l'île de Patmos. Et l'apôtre Jean qui était vraiment l'ami proche du Seigneur. Celui qui était fidèle, qui ne l'a pas quitté. Vous vous souvenez quand tous les autres se sont enfuis? Oh, glory to God. Et en cette époque, tous les apôtres étaient déjà décédés. Tous. Le seul lien vivant avec Jésus était Jean. Et il était déjà un vieillard. C'était une époque capitale dans l'histoire de l'Église. Parce que quand le dernier apôtre meurt, est-ce que cette foi va continuer? Est-ce que l'Église va continuer? Est-ce que l'Église est basée uniquement sur les apôtres ou est-ce qu'elle est basée sur Jésus? Est-ce que nous avons besoin d'avoir vu Jésus physiquement pour le servir? Ou nous avons besoin de pouvoir dire « je connais quelqu'un qui l'a vu physiquement pour le servir ». Est-ce que l'Église va maintenant être centrée totalement sur Jésus? Parce que vous savez, les apôtres avaient une grande renommée à leur époque parce que c'était quand même ceux qui ont suivi le Seigneur. Et ces gens-là, quand ils donnaient leur vie au Seigneur, ils donnaient vraiment leur vie au Seigneur. C'était pas « je viens et on va voir ». Bon, on va attendre 3 semaines si je suis bénie, sinon je vais aller voir le prêtre d'Ifa. Vous ne connaissez pas, c'est bien pour vous. Et c'était un moment capital. Sur quoi est basée l'Église? Sur la révélation du Fils de Dieu ou sur des hommes qui l'ont connu? Et dans cette période capitale, l'apôtre exilé, l'Église persécutée, sous l'empereur Domitien, qu'il voulait adorer comme Dieu. Et les chrétiens avaient d'autres idées. Jésus s'est révélé. Il a pris la peine de se révéler. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas d'autres écrits qui avaient déjà été écrits. Toutes les lettres de l'apôtre Paul existaient déjà, parce que l'apôtre Paul était mort déjà depuis à peu près une trentaine d'années, mis à mort par Néron à Rome. Mais le Seigneur a trouvé nécessaire d'écrire de nouveau aux églises. tous les apôtres avaient écrit par inspiration divine. Et là, Jésus se présente physiquement pour dire écrit aux églises. Ce que nous voyons ici, c'est Dieu qui parle, qui dit, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Voilà comment vos églises doivent être, voilà ce que vous devez enlever de vos églises. Et c'est frappant parce qu'à la fin de chacune de ces lettres, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises, à chaque homme et chaque femme à l'intérieur de l'église. À toi et à moi. Glory to God. Regardez avec moi dans Apocalypse chapitre 2. À l'église d'Éphèse, il parle de sa loyauté dans la doctrine, sa constance dans la parole de Dieu, le fait qu'elle reconnaît les faux apôtres et qu'elle ne les suit pas, qu'elle ne se laisse pas détourner de la saine doctrine, et il la félicite. Et nous avons pris note et nous avons dit nous aussi. Alléluia. Et pour que cela se passe, il faut que chacun ait des oreilles pour entendre la parole de Dieu et que chacun applique sa vie à la méditation, à l'étude et à la connaissance de la parole. Parce que il n'est pas suffisant que ce soit enseigné, il faut que ce soit reçu. Il leur a fait une reproche, l'absence d'amour. Nous avons dit, nous allons nous employer à continuer. Développer, continuer notre amour pour le Seigneur, notre intimité, notre amour les uns pour les autres. À l'église de Smyrne, il donne l'encouragement à persévérer au milieu de la souffrance. Et il donne son exigence à son église de lui rester fidèle en toutes circonstances, même jusqu'à la mort. Jésus croit qu'il mérite que l'on meure pour lui. Est-ce qu'il a raison? Non, est-ce qu'il a raison? Jésus croit que la fidélité à son nom peut nous valoir les pires souffrances, mais qu'il le mérite. Et que nous devons les accepter et non pas les éviter. C'est intéressant. Il est en train de leur montrer sur quoi est basée leur foi. Aussi, Jésus écrit à l'église de Pergame. Et il dit ceci au verset 12. Thank you, Father. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous voyons donc le même schéma que pour la lettre d'Éphèse. Le destinataire, l'expéditeur, le bon, le mauvais, ce qu'il faut changer, l'avertissement et la promesse. Et nous avons tellement de choses à apprendre de cette lettre écrite à l'église de Pergame. tellement de choses à apprendre de cette lettre écrite, parce que cette lettre est écrite à une église qui est dans une ville très cosmopolite, comme nous, n'est-ce pas? La ville de Pergame était une de ces grandes villes qui rivalisait quelque peu avec Éphèse, avec Smyrne. C'était une ville aussi politique. Et nous allons trouver quelque chose d'intéressant. Je veux vous raconter quelque chose d'intéressant tout à l'heure lorsque nous allons parler de la manière dont Jésus s'est présenté. Parce que cette ville était le siège du gouvernement, le siège administratif régional. La ville de Pergame a une histoire intéressante parce qu'elle était une ville, elle faisait partie d'un royaume, et quand le roi est décédé, il a légué à Rome. Parce qu'il n'avait pas de descendants, il voulait éviter une guerre civile. Donc Rome aimait cette ville, c'est une ville qui n'a pas eu à conquérir. Donc il y avait une certaine autonomie, une administration locale, et cet administrateur local, le gouverneur local, disposait de ce qu'on appelait le droit de l'épée. Pergame était aussi une ville très riche, une ville aussi qui disputait le droit d'être reconnue comme le bijou de l'Asie. Je me rappelle encore que lorsqu'on parle d'Asie, nous parlons d'Asie mineure, nous ne parlons pas de l'Inde ni de la Chine. Car que Dieu aime l'Inde et il aime la Chine. Et nous appelons l'Inde et la Chine dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais c'est une très belle ville, une ville aussi de culture, une ville de connaissances. Et dans l'Antiquité, la bibliothèque de Pergame était connue comme étant la deuxième bibliothèque au monde après celle d'Alexandrie. Tout le monde connaît la grandeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et dans la bibliothèque de Pergame, il y avait à peu près 200 000 manuscrits. À l'époque, nous commençons à prendre conscience un petit peu de l'environnement dans lequel évoluait cette église. Et pour la petite histoire, il nous a dit que Marc-Antoine avait fait cadeau de cette bibliothèque, du moins de beaucoup de ses livres, à Cléopâtre. Glory to God. Alléluia. Un grand centre de culture, grand centre de connaissances, grand centre de savoir et aussi un grand centre religieux. Très grand centre religieux, beaucoup de temples. D'ailleurs, la première ville d'Asie à construire un temple en l'honneur d'un César. Trois temples en l'honneur de différents Césars, beaucoup de temples, des temples pour le dieu Dionysius, qui était l'équivalent du dieu Bacchus, romain, du vin, n'est-ce pas? Il y avait aussi un temple à Athénée, il y avait aussi un temple à Esculapius, qui était le dieu de la guérison. Très intéressant. Il y avait aussi un grand hôtel à Zeus. Dis bien Zeus en français? Zeus. 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 Grand temple à Zeus. Un énorme temple. Qui d'ailleurs ressemblait à un trône. Bien. Une grande ville religieuse. Beaucoup d'idolâtres. C'était le centre religieux de l'Asie. Et dans cette ville, il y avait une église. Et Jésus a écrit à cette église. Très souvent, lorsque nous pensons au début de l'église, nous pensons uniquement à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais le développement de l'église dans le monde païen était très difficile. Parce que c'était une façon de penser complètement différente. Je vous ai expliqué que les chrétiens étaient considérés comme des athées, n'est-ce pas? Parce qu'ils servaient un Dieu qui était invisible. Nous vivons dans un contexte aussi qui peut être considéré comme étant assez difficile pour l'Évangile. Mais ça ne change strictement rien à la puissance de Dieu pour changer les Juifs. Jésus écrit donc à cette église et il se présente, chose intéressante, vous voyez que chaque présentation est différente. Jésus se manifeste dans notre situation. Jésus se manifeste dans la situation de ces personnes en se présentant comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. La parole de Dieu nous dit que l'épée à deux tranchants, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus donc se présente comme celui qui a la parole de vie. Mais il y a aussi un petit jeu ici, parce que comme je vous disais, le gouverneur local avait le droit de l'épée. Le droit de l'épée veut dire quoi? Le droit de l'épée veut dire qu'il avait le droit de vie et de mort sur les gens. simplement dans un mouvement de la tête, ils pouvaient décider que quelqu'un devait être mis à mort. Et quand vous vivez dans un contexte comme cela, si vous êtes en désaccord avec le gouvernement, il vous invite à faire quelque chose que vous estimez ne correspondant pas à votre foi et que vous ne pouvez pas faire, il a le droit de tourner sa tête et c'est fini pour vous. Mais Jésus se présente comme celui qui a l'épée à deux tranchants. Jésus se présente comme le seul vrai pouvoir, la seule vraie autorité. Il se présente comme celui qui, avec une parole de sa bouche, peut amener la vie, peut amener la fin, peut amener la mort. Le seul qui a une autorité finale sur qui que ce soit, et sa parole seule est autorité finale. Et c'est intéressant de voir Jésus parler à ces gens dans leur contexte et révéler une facette de sa personne qui développe et bâtit leur foi. Et nous, si nous avons besoin de voir au-delà de là où nous sommes, de voir Dieu. Et ce qui amène beaucoup de gens à ne pas aller plus loin avec Dieu, à ne pas être totalement engagés, comme nous avons dit hier, c'est qu'ils ne voient qu'eux-mêmes, ils ne voient que leurs circonstances, ils ne voient que leurs difficultés, ils ne voient que leurs problèmes, ils ne voient que le présent, ils ne voient pas Dieu dans leur situation. Ils ne le voient pas tel qu'il est. Quand vous le voyez tel qu'il est, ça change complètement tout. Ça change votre regard sur la situation où vous vous trouvez, ça change votre attitude, ça change vos paroles et ça change votre pensée. Alléluia. Et Jésus veut que ces gens le voient comme le seul qui représente l'autorité, la puissance et la parole, qui change la vie. Et il se présente donc et écrit à cette église, « Je sais où tu demeures. » Nous revenons encore sur ce que Jésus sait. C'est merveilleux. Et je suis persuadée que lorsque nous aurons fini avec ces lettres, vous allez commencer vos prières en disant, « Seigneur, je sais que tu sais. » Au lieu de dire, oh Seigneur, je viens vraiment, je veux t'expliquer le problème. Tu sais, Seigneur, il y a ça. En passant une heure à essayer de le convaincre et lui expliquer et réexpliquer, je crois que vous allez changer votre manière de prier. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et vous allez changer votre attitude dans les situations où vous êtes. Au lieu de dire, mais je comprends pas, mais je sais pas. Commencez en disant, Seigneur, tu sais. Parce qu'il sait. Il sait. Il dit, je sais. Et ce que Jésus sait ici est quand même extraordinaire. Je sais où tu demeures. J'ai ton adresse. Souvent, lorsque Dieu nous demande quelque chose, mais Seigneur, je suis à Paris. Ah bon, désolé, je pensais que tu étais à Bujumbura. Non. Non. Non, le nombre de fois on a essayé de lui expliquer, oui, mais Seigneur, tu sais, en France, Seigneur, mais tu sais, en France, oui, mais je veux, mais Seigneur, en France, mais Seigneur, ici, mais Seigneur. Je vous ai parlé du serviteur de Dieu qui prêchait sur la sainteté, et il a perdu presque toute son église, et quelqu'un lui a dit, oui, mais tu sais, en France, on ne peut pas prêcher ça. Hein? Glory to God. Et Jésus donc dit, je sais où tu demeures. Alors, il n'y a pas de, oui, mais Seigneur, tu comprends. Non, je sais où tu es. Et comment est-ce que Jésus décrit là où il demeure? Je sais que là est le trône de Satan. C'est quand même extraordinaire. C'est Jésus qui parle. Et il dit à cette église de Pergame, là où vous êtes, c'est le trône de Satan. Et il dit avant même la fin de la phrase, c'est là où Satan a sa demeure. Vous pouvez imaginer les ténèbres spirituelles dans cette ville, le niveau d'activité démoniaque dans cette ville, parce qu'on sait que l'activité démoniaque, il y en a sur la terre, mais là où Satan a sa demeure, en d'autres termes, c'est son lieu. Il est installé, il y est bien, tout se passe comme il veut, plus ou moins, sauf pour cette église qui lui casse les pieds. Et là où Satan a sa demeure, il y a une église. C'est quand même fort. Tous ceux qui font, oui, mais là-bas, c'est trop dur. Non, même là où Satan a sa demeure, il y a une église. Il n'a pas pu empêcher aux gens de se convertir. Il n'a pas pu empêcher à cette église de naître. Et il a tout fait. Et il continue à tout faire. Et on va voir l'avertissement que Jésus leur lance parce qu'ils changent de tactique. Là où Satan a sa demeure, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville? Pourquoi Satan a sa demeure dans cet endroit? On a déjà vu que c'est un endroit où il y a beaucoup d'idolâtrie. Et ce Dieu de guérison dont il est question, ce n'était pas un petit temple où les gens allaient juste pour amener quelques sacrifices. C'était un grand complexe qui lui était consacré. Mi-hôpital, mi-spa, mi-lieu de repos, mi-théâtre. Un énorme complexe. Et les gens allaient là-bas, ils venaient de partout pour être guéris par ce Dieu. Et le symbole de ce Dieu, c'était le serpent. C'est pour ça que dans beaucoup de choses médicales encore, vous voyez un serpent sur une espèce de... Exactement. C'est le symbole de ce dieu Escalépius. Et les gens venaient de partout et ils passaient par son grand, un long tunnel pour aller là où ils allaient rencontrer les gens qui allaient les soigner. Et ils arrivent, et dans ce long tunnel, sur les côtés, il y avait de l'eau qui coulait. Ça provoque déjà un effet de sédatif. Travail sur les sens. Et ils arrivaient là et ils recevaient un sédatif et ils dormaient. Et quand ils dormaient, ils étaient censés faire des rêves. Et quand ils se réveillaient, ils allaient voir, ils avaient un entretien avec un prêtre qui écoutait leurs rêves, interprétait leurs rêves et leur prescrivait un système de soins, des remèdes en fonction de l'interprétation de leurs rêves. Donc, il devait assister au théâtre, il devait se laver dans l'eau, enfin beaucoup de choses qu'il devait faire au même endroit. Maintenant, les gens qui avaient des maladies en phase terminale n'y avaient pas droit. Il ne fallait surtout pas que quelqu'un meure sur place. Leur Dieu était assez limité dans ses pouvoirs de guérison. Nous savons que Jésus a ressuscité les morts. Alléluia! Et quand il s'estimait guéri, il devait aller se prosterner devant l'image de ce Dieu et offrir des sacrifices. Il y avait ça, il y avait aussi cet autel à Zeus. Donc, il y avait aussi cet autel qui était énorme, construit comme un siège. Et les Allemands ont eu la bonne idée de démanteler ce qui en restait et de l'installer à Berlin, dans le musée Pergamum à Berlin. Et vous savez qu'il y a beaucoup de traités internationaux qui visent le retour des objets volés, n'est-ce pas? Du temps de la colonisation. Il y a beaucoup d'objets qui ont disparu des pays colonisés ou des villes ou des nations étrangères et qui ont atterri principalement dans les musées européens et américains. Il y a des efforts pour le retour de ces objets culturels. Et peut-être qu'un jour, l'autel va retourner en Turquie. Je pense que les chrétiens allemands ne seront pas mécontents. Enfin, il y avait aussi le temple de Dionysius. Et là, les gens s'enivraient et se livraient à l'immoralité. Et c'était leur façon d'adorer leur Dieu. Tout ça, pour nous, ce sont des histoires. Tout ça, pour nous, c'est de la mythologie, mais pour eux, c'était leur religion. Est-ce que vous comprenez? C'était leur religion et c'était pris très au sérieux. Et ça changeait complètement, ça déterminait tout leur système social et toute leur manière de vivre. Et les viandes étaient sacrifiées à Dionysus et les gens mangeaient ces viandes pendant leurs fêtes. Et c'est quelque chose qui se passait un peu partout. D'où l'injonction que les apôtres ont donnée dans Actes chapitre 15. Vous vous souvenez? Lorsqu'ils demandaient qu'est-ce qu'il fallait commander aux païens qui se tournaient vers le Seigneur. Ils devaient s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Jésus disait donc qu'il y avait beaucoup d'activités démoniaques dans cette ville. Et que c'était peut-être l'endroit au monde où il y avait le plus d'activités démoniaques. Et je sais que c'est là où tu habites. Est-ce que tu aimerais habiter dans un endroit comme ça? Parce qu'il y a des gens qui arrivent en France et disent, wow, spirituellement, c'est lourd ici, c'est lourd. Il y a beaucoup de gens qui sont zélés pour le Seigneur en Afrique. Ils arrivent en France et perdent la foi. Oh, mais c'est spirituellement, c'est lourd. Ou ils vont en Angleterre. Oh, it's so hard spiritually in this place. It's just so hard. Et si on leur demandait, dira, oui, le trône de Satan doit être ici. Au milieu de tout ça, il y a un groupe de chrétiens. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, il y a toujours moyen pour l'Église de prospérer. Il y a toujours moyen pour le chrétien de persévérer. Il y a toujours moyen pour le chrétien de vivre une vie qui est digne du Seigneur. Et c'est ce que Jésus leur demande de faire. Au milieu de tout ça aussi, il y a bien sûr l'adoration des empereurs. Et Jésus dit ceci, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Extraordinary. Amazing. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Il y a des gens qui sont capables, là où Satan a son trône, de continuer à confesser Jésus. Cela bâtit quelque chose en nous. Même lorsque nous amenons les gens au Seigneur en tant qu'Église, nous amenons les gens à Christ, il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes, qui sont convaincus que oui, mais quand les gens se convertissent, ils vont tous rétrograder parce qu'ils ne peuvent pas tenir dans cette société. À Pergame, il y a des gens qui ont tenu. À Paris, il y a des gens qui tiennent. Amen. Je répète. À Pergame, il y a des gens qui ont tenu. À Paris, il y a des gens qui tiennent. Amen. Alléluia. Vous êtes là. Glory to God. Amen. Et tous les gens que vous allez amener au Seigneur aussi vont tenir. Amen. Ils vont retenir la foi. Amen. Ils vont retenir son nom. Amen. Ils vont garder la foi. Et nous devons vivre dans cette assurance que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Glory to God. Et avoir cette vision conquérante dans la société où nous vivons, convaincus du fait que nos voisins viendront à connaître le Seigneur et qu'ils vont tenir ferme dans la foi. Alléluia. Je vous ai dit quand nous avons commencé à Abba House, il y a une personne qui était un peu comme ça. Et j'ai demandé des nouvelles de la personne. Et quelqu'un m'a dit, oh, je ne sais pas où elle est. Surtout, on ne va pas la revoir. Persuadé que la personne n'allait pas tenir. Mais figurez-vous, la personne, c'est Béatrice. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Vous allez tenir.
Amen.
Vous n'allez pas le renier.
Amen.
Vous allez retenir son nom.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Moi, je vais retenir son nom. Je ne vais pas le renier. Lorsque je me suis convertie, j'avais une petite vingtaine. Et c'était, à un moment donné, c'était dur. Le diable s'est déchaîné. Au début, c'était « Yes, alléluia !» Et après, le diable s'est déchaîné. Et c'était dur. Et à chaque moment, quand j'allais avancer dans ma vie spirituelle, il y avait toujours quelque chose comme une espèce d'avalanche. L'impression que ah, cette fois-ci, tu ne vas pas avancer. Je vais avancer. Au nom de Jésus, je vais avancer. Et au nom de Jésus, je vais tenir. Et au nom de Jésus, je vais surmonter. Ça aussi, ça passera. Comme les autres ont passé, ça passera. Ces circonstances passeront. Ces difficultés passeront. Ces attaques passeront. Et je passerai de l'autre côté, plus forte qu'auparavant, plus vigoureuse qu'auparavant, plus de foi qu'avant. Et nous allons gagner. Alléluia. 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 Et quand vous en avez passé quelques-uns comme ça, quand les prochains viennent, vous êtes là. Come on. Yes, celui qui est en moi, que celui qui est dans le monde. Jésus ne ment pas, il est vraiment vainqueur. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'il dit juste pour nous caresser dans le sens du poil, pour qu'on ne soit pas trop désespéré. Il est vraiment vainqueur. Vraiment vainqueur. Vraiment?
Vainqueur.
Vraiment?
Vainqueur.
Il faut que vous nous sachions tenir. Lorsque les vagues d'oppression, les océans de dépression, les accusations, les calomnies, l'impression de se noyer, lorsque ça vient, il faut simplement dire, je crois en Jésus. et je ne renierai pas ma foi. Jésus est Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon roi. Je ne lâcherai pas sa main. Je tiendrai dans cette circonstance et je surmonterai et je continuerai à déclarer la grandeur de mon Dieu. Amen. Et si je meurs, je meurs. Quel est le problème? C'est ce qu'Esther a dit, n'est-ce pas? Où est le problème? Si nous sommes trop attachés à la vie, nous finissons par renier Jésus pour garder la vie. Si nous sommes trop attachés aux choses, ça, nous finissons par renier Jésus pour garder ça. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, tout est facultatif. Jésus seul est indispensable. Là où Satan a son trône. Et Jésus parle d'un homme qui s'appelle Antipas. Il dit ceci. Waouh! Même tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il s'est passé quelque chose manifestement assez extraordinaire avec la mort de cet homme Antipas. Il a été tué pour sa foi. Jésus l'appelle mon témoin fidèle. Vous savez, c'est intéressant, parce que c'est comme ça que Jésus s'appelle lui-même. Il s'appelle le témoin fidèle. Et il appelle cet homme mon témoin fidèle. Moi, je veux que Jésus m'appelle par son nom. Alléluia. Oh, Jesus! Nous devons tenir à l'approbation de Dieu. Dieu l'appelle mon témoin fidèle. Il y a une ambition qui doit venir en nous. Je dis ça constamment. Les chrétiens du 21e siècle, nous voulons juste que Dieu s'occupe de moi, pauvre petite, malheureusement, il sait combien ma vie est difficile. Moi, je veux plus que ça. Alléluia. Je veux être un témoin fidèle. Je veux être de ceux qui sont increvables. Vous comprenez? Increvables. Unstoppable. Unbreakable. Immovable. Unshakable. Alléluia. Ne parle pas malheur. Le Seigneur sait, il est là. Il comprend. Et souvent, la plupart de ça, ce sont des choses que nous avons causées nous-mêmes. Ce n'est même pas la persécution, c'est la bêtise. Franchement, il ne faut pas gâcher sa vie avec la bêtise. Vous me comprenez? Jésus l'appelle mon témoin fidèle. Jésus sait, dites Jésus sait. Oh, il sait, il sait, il sait, il sait, il sait. Oh, Jesus. Jésus sait. Il appelle cet homme mon témoin fidèle. Il a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et il y a des endroits où Satan n'a pas sa demeure, mais il y agit un peu. On dit, on va y aller. Ouh, peut-être pas, il faut la sagesse. Mais non, on va juste y aller pendant une semaine. Ouh, attention. Oh, attention. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur Antipas. Il y a une histoire qui est racontée à son sujet. Nous ne savons pas si c'est vrai ou pas, mais c'est intéressant. Vous voulez la connaître? Oui? Il y a une histoire qui est racontée à son sujet par les pères de l'Église. Et selon certains, Antipas serait l'évêque de Pergame. J'ai dit de Paris. L'évêque de Pergame qui aurait été mis à mort à cause de sa foi parce qu'il chassait trop de démons. Et que les prêtres d'Escalipius étaient fâchés, ils auraient vu en rêve, les démons, ils ne disaient pas que c'était les démons, bien sûr, ils disaient que c'était les dieux, venir vers eux pour leur dire que cet homme Antipas, c'était très dangereux. D'ailleurs, c'est le genre de choses que le diable fait. Quand vous lui causez trop de problèmes, il va essayer de soulever les gens contre vous. Et tout d'un coup, les gens qui semblaient vous aimer, ils disent, oui, mais vous, excuse me. Ça sent le soufre. Et donc, cet homme était très dangereux et ils l'ont traîné devant les autorités et ils l'ont tué. Ils l'ont tué en le mettant dans une espèce de cuve d'airain en forme de bélier. Ils l'ont mis dedans et ont mis du feu en dessus et il est mort. de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, il s'est passé quelque chose de terrible à cet homme Antipas, et en dépit de tout ça, ces gens ont gardé la foi. Dites-moi, si on venait m'arrêter aujourd'hui et mettre en prison, combien de vous seraient là la semaine prochaine? Puis on va continuer, pas pour avoir volé, rassurez-vous. Oui, mais parce que si tu voles, je ne vais pas revenir dans l'église. Non, pas pour avoir volé, juste pour avoir été chrétien ou avoir dit quelque chose que l'État n'a pas approuvé parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais c'est bibliquement correct. Et on vient m'arrêter, me mettre en prison. Est-ce que vous allez dire, ah non, on va rester fidèle au Seigneur? Ou oula, il faut faire attention parce que faites ça. Non, de toute façon, on peut toujours adorer chez soi. Je dis, sur Internet, il y a beaucoup de prédications. Nous allons y arriver dans notre génération. Ça se passe dans d'autres pays. Ça ne se passe pas encore en France, mais là où va notre société. Nous allons devoir prendre position publiquement sur les choses qui ne vont pas faire plaisir. Et il se peut que nous soyons invités par l'État à nous expliquer au commissariat de police. Glory to God. Jésus a remarqué qu'ils ont tenu ferme dans leur foi. Ils n'ont pas renégocié leur contrat avec Dieu pour lui finalement, non. Finalement, écoute, j'aime Jésus dans mon cœur, c'est tout ce qui compte. Et nous allons pouvoir imaginer que donc Jésus a dit, écoutez, vous êtes là où Satan a sa demeure, là où il y a le trône de Satan, il y a des ténèbres extraordinaires dans ce lieu, vous n'avez pas renié ma foi, ça va, il n'y a pas de souci. Mais non. Ça doit nous faire réfléchir. Au verset 14. Là où moi j'aurais dit, ah oui, vous êtes vraiment formidable, hein, vous êtes fort. Jésus dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc. En dépit des ténèbres, en dépit de l'obscurité ambiante, Jésus a une exigence de sainteté. Jésus a une exigence de droiture. Rien ne justifie le compromis. Et cette église, c'est l'église qui accepte le compromis. C'est l'église qui a été fidèle, qui n'a pas renié Jésus quand les attaques extérieures sont venues. Mais après, il y a d'autres attaques qui sont venues, qui sont plus sournoises. La séduction. Le compromis. Et elle a commencé à accepter le compromis. Satan n'a pas pu l'affaiblir avec des attaques et des persécutions, mais il commençait à l'affaiblir de l'intérieur avec le compromis. Et Jésus parle ici de la doctrine de Balaam. Et qu'est-ce que vous connaissez l'histoire de Balaam? Pour les nouveaux convertis, je vous raconte rapidement l'histoire de Balaam, oui ou non?
Oui.
Lisez votre Bible. Balaam était, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et a commencé à conquérir du territoire, il y a un homme qui s'appelait Balak. Balak, roi de Moab, qui a regardé, qui a dit, mais ces gens sont terribles, ils vont nous envahir, ils vont tout dévaster. Il a fait appel à un homme qui s'appelait Balaam, un homme qui pouvait déclarer des choses sur les gens et ces choses allaient se passer. Il a invité Balaam pour venir maudire Israël. Il a dit, si tu les maudis, peut-être que je pourrais les vaincre dans la guerre. Et Balaam a voulu le faire, mais Dieu l'en a empêché. Dieu l'en a empêché. Il a quand même voulu encore demander. Dieu l'en a empêché. Et finalement, Dieu lui a dit, tu peux y aller. Il a eu une rencontre intéressante avec un ange sur le chemin, ce qui a provoqué une réaction de son âne, à qui Dieu a donné la voix pour parler, parce que le prophète était fou, lui, il ne voyait pas l'ange. Et finalement, Dieu lui a permis d'aller vers Balak. Et quand il est allé vers Balak, il a dit à Balak, je suis obligé de dire ce qui est mis dans ma bouche. Je ne peux pas dire ce que je veux. Il y a des chrétiens comme ça. Ils obéissent, mais vraiment à contre-cœur. Et dès qu'ils trouvent le moyen de désobéir sournoisement, ils le font. Oh, c'est pas moi.
Et ce qui s'est passé est réellement extraordinaire. Par deux, trois fois, Balak fait des sacrifices et demande à Balaam de maudire Israël. Et Balaam ouvre la bouche, et dès qu'il ouvre la bouche, ce sont les bénédictions qui sortent. Il ne peut pas s'empêcher de les bénir. Ça, c'est moi. On ne peut pas s'empêcher de me bénir. Amen. C'est moi. Alléluia. C'est moi. Amen. 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 C'est toi aussi. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob. Il n'y a pas de divination contre Israël. Lorsque quelqu'un marche droit avec Dieu, les ténèbres ne peuvent rien. Alléluia. Si vous faites partie des chrétiens qui ont peur des sorciers, arrêtez cette bêtise. Mettez votre vie en règle devant Dieu, rien ne peut vous atteindre. Et par trois fois, il a continué à prophétiser sur le peuple d'Israël. Et Balak était frustré, il était vexé, il était énervé. Je t'ai invité pour les maudire, tu ne fais que les bénir. Balaam est reparti. Mais nous constatons au chapitre 31 de Nombre, ça s'est passé dans Nombre 22-24, que le peuple d'Israël s'est livré à la débauche, s'est livré à l'idolâtrie, a commencé à consommer des choses sacrifiées aux idoles. Et il nous est dit que c'était sous conseil de Balaam. Balaam a conseillé à Balak et compagnie comment attirer Israël de telle sorte à les pousser à pécher contre Dieu pour qu'ils soient exposés et qu'ils deviennent une cible facile. La doctrine de Balaam. Et Jésus reproche à cette église d'avoir accepté des gens en son sein qui enseignaient des fausses doctrines et qui amenaient les gens à changer leurs valeurs pour commencer à partager des viandes sacrifiées aux idoles et pour commencer à se livrer à l'immoralité. Il y a ici un double compromis, un compromis spirituel dans les fausses doctrines. Il y a un compromis moral dans les mauvais choix moraux, dans l'acceptation du style de vie aux alentours. Renégocier les valeurs du royaume. Oui, mais c'est pas grave si. La grâce est là pour ça. Tous les péchés sont déjà pardonnés. Les précédents et les futurs. Nous entendons beaucoup ça dans notre génération. Donc, qu'importe ce que nous faisons maintenant. Peu importe. Pour en faire tout ce que nous voulons. Il n'y a pas de souci. Ou ce n'est pas grave. Et par la séduction, ces gens ont été attirés. Ce que le diable n'a pas pu faire par la persécution, il l'a fait par la séduction. Est-ce que vous me suivez? Et ça se passait au sein de l'église, il y avait des gens qui vivaient comme ça. Et Jésus a dit, je ne suis pas d'accord. Et les choses qui attirent, et ce que nous constatons, c'est cette absence de séparation avec le monde. Oui, nous aimons Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Même face à la persécution, nous ne lâchons pas notre foi en Jésus. Mais en continuant sur notre chemin, est-ce que nous commençons à diluer l'évangile et diluer les valeurs de l'évangile pour accepter de vivre comme les gens qui nous entourent? Parce qu'en faisant cela, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Et en nous affaiblissant nous-mêmes, nous affaiblissons l'Église. Et Satan a déjà gagné. Lorsque l'on vient dire, renonce à Jésus. Ah non, je ne renonce pas à Jésus. Ah, elle ne renonce pas à Jésus. On va trouver d'autres moyens. On va t'inviter dans des choses qui ne sont pas très catholiques ni évangéliques. On va t'encourager à faire des choix dans ta vie qui ne font pas plaisir au Seigneur en disant ce n'est pas grave. tu vas rencontrer Pierre le païen qui est tellement mignon. Et quand tu vas aller sacrifier à son idole, tu vas devoir l'accompagner. Et tu vas t'installer avec lui, manger ce qui sacrifie à son idole. N'est-ce pas? Compromis. Dites compromis. Compromis. Jésus est très clair là-dessus. Rappelez-vous. Et il fait un parallèle entre la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Nous ne savons pas tout ce qu'ils enseignaient les Nicolaïtes, mais nous savons que c'est quelque chose qui n'est pas très catholique. Et que cela entraîne le peuple dans le péché. La parole de Dieu nous dit que l'amitié avec le monde, c'est l'inimitié avec Dieu. Nous devons toujours garder ça à l'esprit. Le compromis spirituel, le compromis moral. Et il y a quelque chose qui est très frappant. Vous savez qu'on a déjà parlé des Nicolaïtes? Quand est-ce qu'on a parlé des Nicolaïtes? L'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, Jésus a dit à l'église d'Éphèse, il y a quand même quelque chose de bien chez vous. Hein? C'est que vous n'aimez pas, vous haïssez la doctrine des Nicolaïtes, et moi aussi. Cette église accepte ce que Jésus est. Vous voyez comment nous pouvons nous appeler par le nom du Seigneur, mais ne pas partager les valeurs du Seigneur. L'église d'Éphèse, qui est bâtie sur une bonne doctrine, est la doctrine des Nicolaïtes. Au point où Jésus a remarqué cela, il leur a dit, ça c'est bon. Et moi aussi, je hais cette doctrine. Et il arrive ici, ces gens qui pourtant étaient prêts à sacrifier leur vie, mais qui acceptent des choses que Jésus est. Deux églises, deux attitudes différentes. Laquelle sera la nôtre? C'est ça la question. Il ne suffit pas de nous rassembler pour dire nous aimons le Seigneur. Alléluia. Je suis sûre que cette église, quand ils venaient adorer le Seigneur, ils pleuraient comme nous. Oh, Jesus. Mais au moment de choisir et de vivre, il y avait des gens au milieu d'eux qui vivaient dans le compromis. Il y avait des gens qui enseignaient aussi que ce n'était pas grave. Deux églises, deux attitudes différentes. Nous avons le choix, quel type d'église nous serons. Jésus nous montre ce qu'il aime et ce qu'il est. Qu'est-ce que nous allons aimer? Est-ce que nous allons aimer les gens plus que Jésus? Parce que de nos jours, c'est « oui, mais il faut aimer les gens ». Il faut aimer les gens, veut dire qu'il faut tout tolérer. Ce qui est intéressant ici, remarquez, c'est que Jésus n'approuve pas ce que font ces gens, et ensuite, il n'approuve pas cette église parce qu'elle tolère cela. Hey. Nous sommes tous responsables. Ton comportement a un impact sur l'église, sur ce que Jésus pense de l'église. Dès lors où tu fais partie d'une communauté, ce que tu fais va avoir un impact sur cette église et sur ce que Jésus pense de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que nous voyons l'image de l'église aux yeux de Jésus? Ce ne sont pas des individus qui se réunissent juste pour chanter et louer Dieu ensemble, écouter une prédication, et après chacun vit sa vie comme il veut. Non, là, les choix de chaque individu ont un impact sur l'église dans sa totalité, parce que nous sommes encore devant le Seigneur. C'est pour cela que quand vous allez intégrer une église locale, sachez que Dieu vous y a amené. N'y allez pas parce que, oh, qu'est-ce qu'il chante? Oh, là-bas, il y a une fille. Oh, elle est belle comme un cœur. Ah, c'est là où je vais aller. Où ce pasteur? Ouh, après, il fait du théâtre. Et en plus, il a de ses cravates. Ouh, glory. Non. Non. On choisit sur la base de la conduite de l'esprit. Amen. Et on sait que ce qui est enseigné va affecter nos vies. et que ce qui est fait au sein de cette église va avoir un impact sur nous. Et on sait aussi que ce que nous faisons va avoir un impact sur l'église dans sa totalité. Jésus reprend cette église, toute l'église, pour ce que font certains au milieu d'eux. Quand même. Aujourd'hui, au 21e siècle, surtout en Occident, it's a free world. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. OK? Et je vis ma vie. Ce n'est pas biblique. Non, mais attends, le pasteur s'est permis de venir me dire que, de quoi je me mêle? C'est parce qu'on est chrétien que... Ah non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Entrer dans un corps veut dire faire partie d'une communauté et soumettre sa vie à l'autorité au sein de la communauté et accepter qu'on dise « ça, ce n'est pas biblique, ça, ce n'est pas biblique ». Parce que ça va avoir un impact sur toute l'église. Et je ne veux pas que Jésus écrive une lettre au pasteur de Abba House. Voici ce que j'ai contre toi. Tu tolères cela. Ah. Jésus aime l'église. Évidemment, on ne parle pas des gens qui sont convertis hier. Hein? On a prié hier, après que Dieu nous envoie toutes sortes de personnes. C'est où, Seigneur, ta grâce? Les gens viennent à Christ dans tous leurs états. Et on les prend comme ils viennent. Et après, Dieu commence à transformer les vies. Il y a un moment où on a une certaine connaissance des choses de Dieu. Où on sait distinguer entre le bien et le mal. Et on a la responsabilité de s'attacher à la saine doctrine et de mettre en avant ce qui honore Jésus. En avant ce qui honore Jésus et ce qui bénit notre communauté locale. Pourquoi il y a des mouvements qui interdisent aux serviteurs de Dieu de boire? Parce que le fait de prendre une goutte d'alcool est un péché? Non. Pour le bien-être de la communauté. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être une faiblesse. Et le fait de voir un serviteur de Dieu... peut les encourager à se laisser aller. Et vous, ça ne vous gêne pas? Whisky, brandy, coca, sec. Ça ne vous fait rien? Et vous faites ça, vous dites, hallelujah, ça ne vous fait rien. Mais le frère qui est à côté, qui est dans la communauté et qui lui a un peu plus de mal, il va, oh, ben écoute, il n'y a pas de souci parce que hein, le frère en tel, oh, c'est trois, ça. Bon, ça n'est pas tard. Bonjour. Attends, voilà. Je prêche. Je me bénis. Alléluia. J'ai jamais été sous de ma vie. Hein. Je vous rassure tout de suite. Je ne sais pas ce que une fois j'ai dit ça à une collègue de travail. J'ai jamais été ivre. Quoi? J'en ai jamais été ivre? Non. C'est pas vrai. Non. Ça, elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Je pense. Ça veut dire que tout le monde a été ivre. Vous avez été ivre, vous? Bon, non, ce n'est pas très biblique de parler de ça. Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous faites partie de Abba House, vous êtes invité à vivre votre vie de manière digne du Seigneur. À ne rien faire qui puisse amener l'opprobre sur la communauté. Qui puisse amener Jésus à nous regarder comme des gens qui ne sont pas sérieux. Glory to God. Oh, God is so good. Nous n'allons pas justifier le péché. Pour quoi que ce soit. dans notre génération, puisque nous avons tellement envie d'être aimés. Je vous disais ici l'autre jour, le samedi, que si vous voulez servir Dieu, vous devez être libéré du désir d'être aimé. Surtout d'être aimé auprès des gens qui sont sous votre autorité. Vous êtes censé les bénir, non pas être aimé par eux. S'ils vous aiment, c'est tant mieux. Ils doivent vous aimer s'ils aiment le Seigneur. Mais quand on veut être aimé, on entre vite dans le compromis. Et l'amour, c'est ce que ces femmes ont utilisé pour séduire ces hommes. Balaam leur a appris à ces étrangers à séduire le peuple de Dieu, à envoyer des jolies femmes dans leurs tentes. Et il y a même un incident, c'est allé tellement loin qu'il y a un homme un jour, en plein vue de Moïse. Parfois, on va tellement loin dans le péché, on n'est même plus conscient de faire du mal. On dit, quoi, où est le problème? Ah ben, écoute, Cet homme est arrivé en plein vue de l'assemblée d'Israël qui se repentait devant Dieu pour ses péchés. Il arrive avec sa petite femme, une petite copine midianite. Il passe devant Moïse. Vous imaginez jusqu'où on peut aller? Endurci et ne même plus être conscient du bien et du mal. Devant Moïse. Il passe devant Moïse avec sa petite copine. Totalement en violation. Violation totale de la loi de Dieu. Et les gens, choqués, ils entrent dans sa tente. Hey, chérie. En ce jour-là, quelques petits milliers d'Israélites ont péri à cause de leurs péchés. Et Phinéas a tellement eu à cœur l'honneur du Seigneur, et il a mis à mort cet homme et la femme. Mais ces femmes ont été envoyées pour séduire le peuple de Dieu. Attention à la séduction. Parfois, on parle d'amour pour justifier le péché. Il y a un serviteur de John Stott qui a écrit « L'amour devient sentimental s'il n'est pas fortifié par la vérité. La vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. » Il y a un défi ici pour chacun de nous, en réalité. Le défi de réconcilier, le défi de tenir ensemble la doctrine et l'amour. Le défi de la droiture, le défi du refus du compromis. Le défi de la pureté. Le défi de la pureté. Qu'est-ce que Jésus leur dit de faire? Il leur dit, je comprends parce que c'est dur dans votre société, c'est là où Satan a son trône. Donc c'est inévitable que ce genre de choses arrivent. Je comprends que tu vives comme cela, on va voir ce qu'on peut faire. Dieu fait grâce. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus estime que nous avons des ressources nécessaires qu'il nous a données de par la nouvelle naissance, des capacités spirituelles que si nous décidons de les exploiter, nous permettent de vivre au-dessus de la mêlée. C'est notre choix. Mais tant que l'Église n'exploite pas ses capacités, ce potentiel spirituel qu'elle a, elle va continuer à vivre en dessous. Elle va continuer à vivre intimidée par les circonstances. Elle va continuer à vivre dans le compromis parce qu'elle ne trouvera pas d'autre issue que le compromis. C'est ce qui se passe ici dans cette église. Du fait d'avoir été éloignée par de fausses doctrines, ces gens ont perdu de vue la grandeur de Jésus. Ces gens ont perdu de vue la sainteté, ont perdu de vue la pureté. Ils ont été facilement entraînés dans des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Et Jésus leur dit, même là où Satan a son trône, le péché ne se justifie jamais. Je me sens seule, ce n'est pas une raison. C'est Dieu, ce n'est pas une raison. Il n'y a pas de justification. Et l'Église ne peut pas justifier. Et nous, en tant qu'Église locale, nous n'allons jamais justifier cela. Jamais. Nous allons nous encourager à développer notre amour pour la parole de Dieu. Il y a des ressources spirituelles en Dieu. Je vous encourage. Qui nous amène à vivre une vie surnaturelle dans le naturel. Les anges de Dieu sont disponibles pour agir en faveur de ceux qui font confiance à Dieu. Alléluia. Nous devons choisir. Moi, je veux la vie dans la hauteur. Vous suivez? Dans la hauteur de la vie chrétienne. Et quand nous choisissons cela, nous vivons pleinement la vie que Jésus veut que nous vivions et dans les mêmes circonstances que les gens du monde, nous réagissons différemment. Dites non au compromis. Je ne vous entends pas. Non au compromis. Dites-le comme si vous le croyez. Non au compromis. Cette église est une église qui est attirée dans le compromis. Parfois, on pense que le compromis, c'est des gens qui... Ouais, on ne sait même pas si s'en souvient. Non, ça, c'est des gens qui ont même fait face à la mort pour Jésus. Mais quand le diable a commencé à les attaquer autrement, ils se sont laissés faire. Ils se sont laissés faire et ils ont laissé faire au milieu d'eux. Et Jésus leur dit qu'il faut qu'ils se repentent. Repends-toi. Le signe est tellement direct. Tellement direct. Tellement direct. Au 21e siècle, dans les églises en Occident, personne n'a le droit de dire à qui que ce soit de se repentir. Je vous ai dit, quelqu'un m'a envoyé un mail injurieux une fois parce que je lui avais dit de se repentir. Elle n'avait rien fait de grave, juste un peu de fornication. De quel droit le pasteur lui dit de se repentir? Jésus nous invite à nous repentir. Repentance. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un qui ne voit pas, mais j'ai rien fait de mal. No problem. J'ai fait ma part. Repends-toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Moi, je veux que Jésus combatte pour moi, pas contre moi. Ce sont des chrétiens au sein de l'Église. Jésus vient les combattre. Vous comprenez? Il n'est pas en train de parler de païens. Il est en train de parler de gens dans l'église locale. Il dit, qu'ils se repentent, sinon je viens, moi, les combattre. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Honnêtement, ma prière, c'est que nous ayons la crainte de Dieu. Il y a une tension constante. Il y a cette, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous vivons cela. Entre cette conscience d'être des enfants de Dieu, aimés de Dieu, ayant bénéficié de la grâce extraordinaire de Dieu, accepter en toutes circonstances Jésus même et vivre cette liberté, cet amour extraordinaire, et aussi la nécessité d'avoir la crainte de Dieu, de fuir le mal, de fuir le péché et de ne pas nous justifier et juste de nous écrouler, dire, pardonne-moi. Comme David. Quelle est la différence entre David et Salomon? Salomon se justifiait quand il péchait. Donc, il allait de plus en plus mal. Et attaquait les prophètes qui osaient lui dire qu'il avait mal fait. Alors que David se prosternait en sac et en cendre. Vous êtes lequel de ces deux? Alléluia, je l'espère pour vous. En tout cas, moi, je vais me repentir. Jésus a dit, sinon je le combattrai avec l'épée de ma bouche. La parole de Dieu. L'épée de sa bouche, c'est sa parole. N'est-ce pas? La parole de Dieu. La parole de Dieu agit, pas uniquement pour nous encourager. Il y a des fois où elle agit pour nous dresser et nous tailler. Glory to God. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez déclarer la parole de Dieu comme Dieu la veut en toutes circonstances. Comme nous avons prié hier, Seigneur, donne-moi un front d'airain, un front dur comme la pierre. Pour dire ce qu'il faut dire. Quand il faut le dire et comme il faut le dire. Glory to God. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux Églises. Encore un appel personnel à chaque individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rentre chez moi aujourd'hui, même avant de rentrer, j'examine ma vie. Parce que c'est toujours facile de voir le voisin, de voir la paille qui est dans son œil et ne pas voir la... L'apôtre? Alléluia! Je réponds parce que j'ai des oreilles pour entendre, donc j'examine ma vie. Est-ce qu'il y a du compromis dans ma vie? Est-ce qu'il y a du compromis dans ma vie? Est-ce que je suis en train d'être affaibli spirituellement et moralement? Et tellement de chrétiens vivent des vies qui les affaiblissent après quand des problèmes arrivent. Oh, il faut prier. Non, prie-toi. Pas me fatiguer. On n'est pas là pour prier pour les gens qui vivent de façon désordonnée, qui mettent de l'ordre dans leur vie. On ne peut même pas commencer à prier. Il y a tellement de désordre. On y passera une existence. Oh, il y a des gens qui n'ont jamais entendu Jésus, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont en train de mourir, qui vont en enfer. Et on devrait tous aller vers cela. Mais au milieu de nous, on continue à vivre dans le désordre et dans le compromis. On n'a jamais le temps ni l'énergie d'aller vers ceux qui ne savent rien du Seigneur. Dites-leur, vas-y, mets de l'ordre dans ta vie. Et je te le dis avec amour. Allez, avec un grand sourire. Allez, c'est fini le compromis. Faut arrêter de manger à la table du diable. Alléluia. C'est un défi pour chacun de nous, c'est un appel, une invitation. Je sais que celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui a des oreilles tout court, hein. J'ai des oreilles moi. Je regarde s'il y a quelqu'un qui n'a pas d'oreilles. Je pourrais vous dire que vous êtes exempt de cette injonction. Tu as les deux? Oui, ah, elle a toujours les deux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une parole pour les vieux et les moins vieux, pour les jeunes et les moins jeunes. Souvent, les jeunes dans l'église pensent que ouais, le message est pour les adultes. Parce qu'en général, on les isole dans une classe où on leur raconte l'histoire de Moïse. Moïse a été mis dans l'eau et après, il y a quelqu'un qui est venu le sortir de l'eau. Dieu est bon, alléluia! Et ils connaissent toutes les histoires, mais pas l'application de l'histoire. C'est pour vous. Un défi pour chacun de nous. C'est aussi un défi pour le leadership de l'Église. Un défi pour les responsables. Un défi pour nous de ne pas tolérer le compromis au sein de l'Église. Sinon, nous aurons à répondre devant le Seigneur. Un défi pour nous en tant qu'Église. Est une église où la saine doctrine, une église remplie d'amour, mais aussi une église qui est vigilante, qui ne tombe pas dans le compromis. Ah, parce que j'aime la sœur. Oui, mais la sœur vit comme le diable. Oui, mais elle est gentille. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est extraordinaire. À la fin de chaque injonction, Jésus donne une promesse. Dieu est bon. Vous savez, Dieu n'est même pas obligé de nous promettre quoi que ce soit. Vous savez? Et à chaque fois, il nous fait des promesses. Et à chaque fois, il nous fait des promesses pour nous faire comprendre que ce que lui a pour nous est infiniment meilleur que ce qui est en train de nous séduire. Que ce qui est en train de nous tenter. Que ce qui est en train de nous faire peur. Et que si nous choisissons d'opter pour sa voix à lui, le résultat sera infiniment meilleur que si nous avions décidé d'opter pour l'autre voie. En réalité, c'est cela. Au-delà du sens du caillou blanc, que personne ne connaît d'ailleurs. Au-delà du sens, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que la vraie victoire est en moi. Jésus est le pain de vie, n'est-ce pas? Quand Israël était dans le désert, ils étaient nourris de la manne. Et après, lorsqu'ils sont partis en exil, il y a eu une, il y a une histoire selon laquelle Jérémie aurait... Et la manne, vous souvenez que la manne par la suite a été placée dans le sein des saints, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait plus de manne, mais il y avait dans le sein des saints. Et il y a une histoire selon laquelle Jérémie aurait caché cette manne quelque part. Et les Juifs pensent toujours que quand le Messie va revenir, il va dévoiler la manne cachée. Mais en réalité, ce que nous constatons ici, c'est que Jésus est en train de dire « La vraie nourriture dont vous avez besoin, c'est moi qui l'ai. » C'est moi qui l'ai. La vraie victoire dont vous avez besoin, c'est moi qui l'ai. Votre victoire, votre nourriture, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie se trouve en moi. Alors, ôtez vos yeux de ce qui vous attire dans le monde, posez vos yeux sur moi, allez jusqu'au bout avec moi et vous allez voir. Nous n'allons pas assez loin avec Dieu, c'est ça notre problème. Quelques petites prières le matin, de temps en temps, on en fait une, oui, parfois un petit peu, mais on ne va pas assez loin dans l'esprit. On ne va pas assez loin dans la parole et dans l'esprit pour être totalement rempli de Dieu. On ne va pas assez loin dans l'obéissance. On obéit un peu et après nous, on décide que c'est comme ça. Dès qu'on a un peu d'obéissance, un peu de la grâce et de la présence de Dieu, après, on gère le reste. Maintenant, c'est bon, j'ai compris. On gère le reste. Mais quand on peut et on apprend à tout lui donner, tout lui céder, le laisser décider sur tout, tout ce qui est bon, c'est lui qui décide. C'est pas j'arrive en point et après maintenant moi je sais. Est-ce que vous me suivez? Mais avoir cette soumission totale envers le Seigneur, c'est par lui que je vis, c'est par lui que je respire, c'est par lui que je me meurs. Et ma vision des choses n'est déterminée que par lui, non pas par les idées que j'ai ou ce que j'ai compris, parce que oui, telle chose que le pasteur en tel a dit, l'enseignant en tel a dit, j'ai saisi que j'ai compris, que, et je vais faire ça. Mais laisser la présence du Saint-Esprit m'imprégner totalement. Marcher avec lui au jour le jour. Il me montre la réalité de ce qui est en Christ. Il me montre à quel point tout ce qui est autour n'a pas de valeur. Et je cours, je poursuis ce qui est en lui. La manne cachée, c'est celle que seuls ceux qui vont jusqu'au bout avec Jésus peuvent manger. Pas tout ce qui est « Alléluia !» Je prends la manne. Non. Non. Il y a un degré de soumission, il y a un degré d'intimité, il y a un degré d'obéissance qui nous amène dans les choses cachées du Seigneur, qui nous amène dans une profondeur de notre relation avec Dieu, où les choses de ce monde qui scintillent, qui attirent, perdent leur emprise sur nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia, remercions le Seigneur pour sa parole. Je vais vous inviter ce matin à prier et à refuser le compromis. À demander à Dieu de vous montrer des choses dans votre vie avec lesquelles il n'est pas d'accord. Ce qui veut changer, c'est une interpellation individuelle. Et s'il y a des choses déjà, vous voyez, certains ont déjà vu un panorama devant eux, ne résistez pas. N'essayez pas d'expliquer à Dieu. N'essayez pas de justifier. Ne vous demandez pas, oui, mais comment je vais faire après? Laissez Dieu s'occuper de ça. Ce qui vous invite à faire maintenant, c'est de renoncer. Il s'occupe du reste. Ce qui vous invite à faire maintenant, c'est de tout abandonner. Ce qui vous invite à faire maintenant, c'est de vous repentir. Ne lui demandez pas, oui, mais après, je vais faire comment? Il s'occupe de ce que vous allez faire après. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Encore une fois, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez besoin d'expliquer le comment ni le pourquoi, c'est que déjà à la base, ce n'est pas bon. N'expliquez rien, renoncez simplement. Je vais demander à chacun de fermer les yeux et de se présenter devant le Seigneur, priant. Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons t'être agréables. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cette saison dans laquelle nous vivons. Où tu nous amènes à voir quelles sont les choses qui sont essentielles pour une église. Quelles sont les choses qui sont importantes à tes yeux. Seigneur, tu n'as pas de difficulté à bénir ton peuple. Tu n'as pas de difficulté à déverser dans nos vies toutes ces choses que nous passons notre temps à chercher. Mais tu invites ton peuple à aimer ce que tu aimes. Tu invites ton peuple à constituer une assemblée qui t'est agréable. Et au sein des gens qui vivent de manière qui t'est agréable, il n'y a pas de limite à la grâce qui est déversée. Nous voulons par-dessus tout être agréable. Nous voulons par-dessus tout te faire plaisir. Nous voulons que tu regardes Abba House et que tu puisses voir en nous une église selon ton cœur. Nous voulons que tu nous regardes collectivement et que tu nous regardes individuellement. Que tu vois au milieu de nous des gens qui adhèrent fermement et totalement à la personne du Christ et au principe du Christ. Père, nous te remercions. Nous te remercions de ce que tu nous ouvres l'entendement pour comprendre l'importance de ces choses. Tu nous ouvres les yeux. Tu nous ouvres les oreilles pour que ces choses pénètrent à l'intérieur de nous. Pour que nous ne passions pas nos vies sur terre à penser que nous vivons de manière agréable à Dieu et arriver devant toi et avoir la honte de nos vies. Père, qui sommes-nous pour annoncer Jésus si nous vivons contrairement au principe de Jésus? Qui sommes-nous pour dire au monde de venir à la connaissance de Christ si par nos vies nous nions la puissance de Christ? Père, nous voulons être intègres. Que nos paroles correspondent à nos vies. Que nos vies correspondent à l'évangile que nous annonçons. Lorsque nous invitons les gens à connaître Jésus, nous voulons que tout simplement en nous regardant, ils puissent déjà commencer à prendre une certaine mesure de la grandeur de Jésus. Père, nous te demandons de nous visiter individuellement. De nous parler, de nous conduire, de faire en sorte que ta parole soit enracinée en nous et d'agir par ton esprit pour changer les choses dures qui sont à l'intérieur de nous, pour briser la résistance, pour changer notre vision des choses, pour nous amener à comprendre comment toi tu vois l'Église. Et à désirer être cette église qui t'est agréable. Père, nous te remercions pour le soin que Jésus a pris de se révéler encore à son église, de parler encore à son église, de montrer à son église ce qui lui est agréable. C'est en étant agréable à Dieu que nous vivons la plénitude de la joie, la plénitude de la vie que tu as pour nous. Oh, Father, we thank you so much. We thank you, Lord. Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. 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 We thank you, Lord God. 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 We thank you, Father. Oh, hallelujah. 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 Oh, sois béni, mon Seigneur. Thank you, Jesus. Qu'est-ce qui pense que Dieu a agi dans sa vie aujourd'hui? Ah, tout le monde, alors tout est ouvert. Voisin, dis-tu, je suis content pour toi que Dieu ait agi dans ta vie aujourd'hui. Je suis content de toi que tu te sois soumis à sa parole.
Je suis content pour toi que tu te sois soumis à sa parole.
Alléluia.